Réussir ces échecs, point d'interrogation. Alors, on va voir si ça fonctionne. Non, parce que je dois mettre sur on, il m'a dit. C'est trop compliqué pour moi, décidément. Tout le monde a envie de réussir. Je veux réussir. J'aime bien cette image un peu kitsch. Je ne suis pas sûr que vous ayez déjà rencontré quelqu'un qui dise « Mon projet de vie consiste à échouer systématiquement tout ce que j'entreprends ». Pas sûr. Tout le monde a envie de réussir, tout le monde a envie d'avoir du succès dans ce qu'il entreprend, mais tout le monde ne sait pas comment s'y prendre. Voilà pourquoi existe la FNAC. Et voilà pourquoi à la FNAC, il existe de nombreux et précieux ouvrages qui vont vous expliquer comment réussir à coup sûr. Donc voilà, avant de lire la Bible, je vous invite à passer par la librairie de la FNAC. Et vous allez découvrir tout ce que vous allez pouvoir réussir dans votre vie juste en lisant des livres. C'est quand même pas mal. Alors attention, c'est parti. 10 règles pour réussir sa vie. Réussir son jardin potager. Réussir ses premiers cours. Comment réussir votre vie. Réussir son couple. Réussir en français, en anglais, en maths. Alors là, il y avait une série pas possible. Qu'est-ce qu'il y a? Réussir sa salle de bain, c'est essentiel. Eh oui, oui. Réussir son éducation, ça, il faudrait peut-être que je lise ce bouquin. Réussir ses prises de parole, mon livre de chevet, bien sûr. Comment réussir à travailler avec presque tout le monde. Voilà, l'intention des conseils pastoraux. 60 clés pour réussir son couple, réussir le grand écart facial et latéral. Joli, hein. Réussir le permis de chasser, je sais pas. Attention, entreprendre et réussir. La méthode infaillible pour réussir vos études. Pour réussir ses dictées, zéro faute, bien sûr. L'amour malin, réussir sa vie amoureuse, réussir son cidre, très important. Mes conseils pour réussir, voilà, très humble. Les 7 clés pour réussir, 7 clés, avant c'était 10 recettes, cette fois-ci c'est mieux. Et tout pour réussir, pour l'éducation de vos enfants, plutôt scolaire, voilà, vous avez le pack avec un DVD, c'est parfait. Bon. Donc voilà, vous pouvez aller à Payot ou à la FNAC et vous allez lire tous ces livres. Et ensuite, une fois que vous aurez lu tous ces livres, vous n'aurez plus la possibilité d'échouer, vous serez obligé de réussir. D'ailleurs, c'est un peu la pression qu'on a quand même, ou qu'on peut se mettre, ou que la société nous met, et dès tout petit, à l'école, nous devons réussir. Et il y a une pression qui est assez énorme. On doit réussir peut-être à l'école, mais aussi sa vie sociale, sa vie sentimentale, sa vie culturelle, sa vie voilà, amoureuse, son couple. On doit réussir sa famille, en sport, en culture. Et on va être évalué par les autres, mais aussi par soi-même, sur l'échelle de la réussite. Mais même avec toutes les lectures que je vais pouvoir faire, même avec toute la bonne volonté, même avec les meilleures prédispositions que je peux avoir, on va se planter. De toute façon, l'échec nous guette. Et parfois, expérience faite, ça fait mal. Voilà, ça c'était à Berlin que j'avais vu ça, je trouvais ça assez sympa. Même les super-héros, ça arrive même aux super-héros. Qu'est-ce que ça veut dire que d'échouer? Qu'est-ce que ça veut dire que de réussir? Un certain Jésus a dit une fois, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier, d'avoir le succès et la réussite parfaite, s'il perdait son âme? Quand Richard Branson quitte l'école à 16 ans, le directeur de la pension lui dit, Branson, vous finirez milliardaire ou en prison. À 23 ans, il devient millionnaire. Il bâtit l'empire Virgin, riche de plus de 300 sociétés dans les airs, sur les mers, et bientôt dans l'espace, et se lance des défis à lui-même. Il est le premier à traverser l'Atlantique, puis le Pacifique en montgolfière. Il frôle la mort à plusieurs reprises en tentant le tour du monde en ballon. Et ses échecs et ses réussites l'amènent à rencontrer des milliers de personnes, anonymes ou célèbres, comme son ami Nelson Mandela, pour qui il organise une rencontre privée et secrète avec une autre de ses connaissances, le Dalai Lama. À 60 ans, alors qu'il est père de 2 enfants adultes, Richard Branson s'interroge sur le sens de sa vie et de la vie, écrit un livre, que vous trouvez aussi à la FNAC, pardon, « Réussir et après ». Quand on a tout accompli, quand on a tout réussi, ou presque, quoique là, il parle pas mal de ses échecs aussi dans ce livre, « Et après ». Je trouve que c'est une question intéressante. Donc, je vais vous donner un peu le micro maintenant, assez rapidement, c'est un petit micro Villard, avant d'ouvrir la Bible, pour découvrir un texte passionnant et qui va certainement vous surprendre. Qu'est-ce que veut dire pour vous réussir ou échouer? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous une vie réussie? Alors, je sais que c'est une question un peu peut-être difficile, mais je veux quand même essayer de récolter quelques informations. Donc, il y a Alexandre qui va se balader avec un micro. Mais tu as même le droit de répondre si tu veux.
C'est vrai?
Ouais, c'est vrai. Voilà. Est-ce qu'il y a quelques personnes qui veulent nous dire comme ça, un petit, je vous prends un peu à froid, hein, mais j'essaye, un petit sondage, qu'est-ce que ça veut dire pour vous de réussir ou qu'une vie réussie? Ou réussir, échouer, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Alors, une personne, première courageuse, courageuse ou incourageuse? Alors, c'est bien dans le micro comme ça en plus, c'est enregistré. Vos paroles ne sont pas perdues.
Que veut dire pour vous réussir ou échouer? N'est-ce pas une vanité de plus que de vouloir réussir ou échouer dans l'absolu?
Voilà, philosophe, référence à l'Ecclésiaste. Autre chose?
Alors, c'est plus profane, hein. Mais pour moi, échouer, c'est très difficile. Et échouer, c'est si ce que je fais ne correspond pas à mes attentes ou aux attentes des autres, ou ce que je crois ce que sont les attentes des autres, plutôt. Voilà.
Merci. C'était cette définition personnelle. Derrière toi. Alors Alexandre, il faut regarder en fait, il faut avoir une sorte de vue panoramique, tu vois, sur la salle.
Voilà, pour moi, réussir ou échouer, c'est d'abord se mettre en activité et entreprendre.
Entreprendre, prendre le risque d'échouer ou de réussir. Merci, intéressant tout ça. D'autres personnes?
Pour moi, ma vie serait réussie si les gens qui sont autour de moi, donc en particulier mon mari puis mes enfants, sont heureux. Simplement.
Merci. D'autres impressions? Encore une personne. Une deuxième.
Alors pour moi, échouer, c'est dur, mais j'ai toujours appris quelque chose de ce que j'avais raté.
Merci. Alexandre.
Alors moi je dirais que on ne sait pas aimer, on ne fait qu'apprendre à aimer, c'est toujours un apprentissage. Et pour moi je dirais qu'apprendre à aimer une femme en gardant son identité, sans tomber dans une quelconque forme d'esclavagisme, avec Dieu c'est tout un programme, merci.
Il y a beaucoup de choses en une réponse, en une prise de parole. Encore quelqu'un? Ok, écoutez, on va arrêter là. Merci beaucoup en tout cas pour ces quelques impressions et puis ces prises de parole. On va découvrir un texte ensemble qui nous parle de réussite et d'échec. Un texte dans la Bible, mais je vais peut-être le lire avec vous ici parce qu'il me semble que je n'ai pas la même version. Dans Marc 9, voilà, pour ceux qui ont des Bibles et qui veulent suivre dans la Bible, c'est la version du Summer. Donc Jésus était en course de montagne, petite excursion à la montagne, et redescend avec 3 de ses disciples. Et lorsqu'ils redescendent de la montagne, voilà ce qu'il se passe. Lorsqu'ils revinrent vers les disciples, ils virent une grande foule qui les entourait et des spécialistes de la loi qui discutaient avec eux. Dès que tous ces gens aperçurent Jésus, ils furent très surpris et se précipitèrent à sa rencontre pour le saluer. « De quoi discutez-vous avec eux ?» leur demanda-t-il. De la foule, quelqu'un répondit. « Maître, je t'ai amené mon fils car il est sous l'emprise d'un esprit qui le rend muet. Partout où cet esprit s'empare de lui, il le jette par terre, de l'écume sort de la bouche de l'enfant qui grince des dents puis il devient tout raide. J'ai demandé à tes disciples de chasser ce mauvais esprit, mais ils n'ont pas pu le faire. » Échec. Jésus s'adressa à eux et leur dit « Peuple incrédule, jusqu'à quand devrais-je encore rester avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-moi l'enfant. » Un Jésus énervé. On le lui amena. Mais dès qu'il vit Jésus, l'esprit mauvais agita convulsivement l'enfant et le jeta par terre. Celui-ci se roula sur le sol et de l'écume à la bouche. Petite question diagnostique de Jésus. Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? Demande à Jésus à son père. Depuis qu'il est tout petit. Souvent même, l'esprit mauvais le pousse à se jeter dans le feu, dans l'eau, pour le faire mourir. « Mais si tu peux faire quelque chose, aie pitié de nous, viens à notre aide !»« Si tu peux, » répliqua Jésus, « tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, mais aide-moi, car je manque de foi. » Jésus, voyant la foule affluer, commanda avec sévérité à l'esprit mauvais, « Esprit qui rend sourd et muet, lui dit-il, je te l'ordonne, sors de cet enfant et ne rentre plus jamais en lui. » L'esprit poussa un grand cri, secoua l'enfant avec violence et sortit de lui. L'enfant resta comme mort, si bien que la plupart des témoins disaient « Mais il est mort !» Mais Jésus, prenant l'enfant par la main, le fit lever et celui-ci se tint debout. Jésus rentra à la maison et ses disciples qui étaient seuls avec lui lui demandèrent alors « Pourquoi n'avons-nous pas réussi, nous, à chasser cet esprit ?» Jésus lui répondit « Des esprits comme celui-là, on ne peut les chasser que par la prière. » Voilà le texte du jour, assez costaud, avec beaucoup d'éléments, très riches, et je vais juste relever une chose, c'est l'échec des disciples. Ce père-là est désemparé, on le comprend bien quand on voit l'état de son enfant. Certainement qu'il a tout essayé pour guérir son fils et il l'amène aux pieds des disciples dans l'espoir que enfin il soit guéri pour de bon. Et rappelons quand même une chose, c'est que ses disciples, et on le lit dans les chapitres précédents, ont été choisis par Jésus. Ils ont été enseignés par Jésus. Ils ont même été envoyés par Jésus lui-même pour annoncer la bonne nouvelle, l'évangile, mais aussi pour guérir des maladies et pour chasser des esprits mauvais. Et Jésus leur avait donné l'autorité pour faire tout ça. Et ça, vous le lisez avant dans l'histoire, dans les chapitres 6. Il est même marqué dans ce chapitre 6 de l'évangile de Marc que les disciples chassaient beaucoup de démons et guérissaient beaucoup de maladies. Donc les disciples ont déjà connu le succès. Ils ont été équipés pour accomplir la mission que Jésus leur a donnée et ça a marché jusque-là. Et malgré tout ça, ces mêmes disciples essayent de répondre à la demande de ce père et ils échouent. Ils n'y arrivent pas. Le fils reste profondément malade et puis le père est là, désemparé. Ils sont complètement impuissants. Ils se retrouvent en situation d'impuissance devant un besoin qui leur est amené. Ils sont dépassés par la situation. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous sentir impuissant face à certaines choses qui arrivent dans vos vies. Vous sentir dépassé par certaines situations, dans une impasse. Et les disciples ne savent plus comment faire. Et en plus, ils échouent devant la foule. Alors, ça m'est déjà arrivé d'échouer plusieurs fois dans ma vie, d'essuyer des échecs. Quand c'est tout seul qu'on se plante et qu'on n'arrive pas, c'est une chose. Quand c'est devant ses amis en qui on a confiance, qui ne nous jugent pas trop et qui nous acceptent comme on est, plus ou moins, ça va. Mais quand c'est devant tout le monde, quand c'est devant le public, c'est beaucoup plus difficile. Et il faut imaginer les disciples qui sont là avec cet enfant, avec ce père, et tout le monde, toute la foule qui est là, tous ces regards qui se posent sur eux, tout ce qui se passe dans la tête des gens, tous les jugements qui peuvent avoir lieu. Et ces disciples ici qui sont désemparés, ils devaient se sentir assez mal, et je ne sais pas ce qui se passait en eux, dans leur cœur, ça devait être assez compliqué. Et pour couronner le tout, il y a les religieux, c'est-à-dire ceux qui savent, ceux qui sont maîtres de la loi, qui détiennent l'autorité, qui viennent et qui commencent à discuter, certainement juger aussi de cette situation, et peut-être même remettre en question en fait, les capacités de ces disciples et de Jésus, certainement. Et peut-être que vous aussi, moi en tout cas, on a déjà éprouvé ce sentiment d'impuissance ou d'incapacité face à ce qu'on nous demande, ou qu'on croit qu'on nous demande, comme on l'a dit tout à l'heure. Et ce texte montre déjà une première chose, c'est que ça arrive même au meilleur. L'échec est inévitable. Même pour ceux qui ont la meilleure formation, les plus grandes compétences, un jour ou l'autre, ils sont confrontés à l'échec. Et la question qu'on va se poser, c'est comment est-ce que je vais pouvoir gérer ces échecs, qui peuvent être des grands échecs, mais qui peuvent être des petits échecs aussi à l'école ou dans ma formation ou ailleurs ou dans mes relations. Comment est-ce que je vais arriver à gérer ça? Avant de poursuivre et de tenter de donner quelques pistes pour répondre à cette question, il y a maintenant les 2 minutes de Villard, avec une grande courageuse, qui est Valéria, qui a donc 2 minutes, top chrono, pour nous partager un petit bout de sa vie sur ce thème de la gestion des échecs. Et pour l'encourager, il y a 2 videurs qui, si elle dépasse le temps, la ramèneront gentiment mais fermement à sa place. Voilà, comme ça, elle se sent bien en sécurité, elle est bien entourée. Donc, je lui donne déjà le micro. Ah, elle veut tricher. Hein. C'est parti.
Quand Christophe m'a demandé de témoigner sur ce sujet, je me suis dit que finalement, je n'avais rien à dire. J'avais une vie facile, j'ai pu étudier, voyager, avoir des beaux apparts, enfin, plein de trucs très positifs. Finalement, en relisant le texte, ce qui m'a marqué, c'est que la foi est appelée à se développer et que certaines situations ne peuvent se résoudre sans prière. Alors, je n'ai pas de témoignage fracassant, mais moi, ce qui me touche le plus, c'est quand je suis loin de Dieu, c'est que le démon sait où sont mes failles et fait tout pour que je ne sois pas reliée. Et quand je suis vraiment reliée à Dieu, j'ai vraiment une armure et je me sens forte et j'ai l'impression que tout m'est possible. Je vais quand même vous faire un tout petit partage d'un échec transformé en réussite. J'étais mariée à un psychiatre, c'est pas facile d'être mariée à un psychiatre, pendant 24 mois, compris divorce, séparation. Et après j'ai rencontré Raymond, tout le monde connaît la suite. Et je dois dire que la rencontre de Raymond, pour moi, était la réussite parce qu'il m'a ramenée vers Dieu, malgré tout. Toutes nos grandes discussions, c'est ce qui m'a donné maintenant une espérance nouvelle. Et maintenant, je prie Dieu pour tout, payer les impôts, dormir, ou bien quand j'ai différents au travail, ou bien quand j'en ai marre. Et puis, pour moi, ça, c'est la réussite, c'est de revenir à Dieu et de m'accrocher vraiment à lui. Voilà. Et je suis bonne.
Oh là là, bravo! Merci beaucoup. Belle performance. Donc ils ont toujours 40 secondes en fait de marge encore et du coup il y a un débit comme ça qui est assez haut. J'espère que vous l'avez bien compris. En tout cas, merci beaucoup pour la richesse de tes paroles et cette authenticité. C'est toujours précieux, je trouve. Le texte que nous avons lu tout à l'heure m'interpelle pour une deuxième chose que j'aimerais vous partager. C'est que Jésus va venir au secours des disciples qui sont désemparés. Et surtout au secours de ce fils et de son papa. Et c'est vrai que vous avez un peu réagi quand vous avez entendu les paroles de Jésus, parce qu'il s'y prend de manière assez musclée, hein, autant dans ses propos que dans son action. Et ce que je trouve beau dans ce texte, entre autres, c'est qu'une situation d'échec, permet l'intervention puissante de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et quand nous n'arrivons pas, quand nous sommes dans une situation d'impuissance, quand nous sommes désemparés ou nous avons l'impression d'être dans une impasse, faisons appel à Jésus, vraiment. C'est ce que Valéria disait. Si je réussis partout, je pourrais allègrement me passer de Jésus-Christ. Il y a peut-être une chose pour laquelle je ne peux pas me passer de lui, c'est cette porte qui s'ouvre à l'éternité, pour l'éternité. Cette porte-là, lui seul, peut me l'ouvrir par le don de sa vie, par son pardon. C'est vrai que là, j'ai beau avoir tous les diplômes face à Dieu, j'ai besoin de Jésus. Mais aujourd'hui, c'est mes situations de faiblesse, c'est mes situations de non-réussite qui m'obligent à faire appel à Jésus. Est-ce qu'il y a des situations auxquelles vous pensez aujourd'hui et vous dites « là, je n'arrive plus, là, j'ai besoin d'aide dans mon travail, dans des relations peut-être compliquées, dans ma famille, à l'école ou ailleurs, j'ai besoin de toi, Jésus, faire appel à Jésus. » Ça paraît assez simple, mais je me suis dit, Christophe, est-ce que tu le fais vraiment? Est-ce que réellement tu t'appelles au secours, comme ce père a demandé le secours de son Dieu? Et je me suis dit que peut-être qu'en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus, est-ce que je prends le risque de prier pour des gens? Ça, c'est un autre point que j'aimerais partager avec vous. Est-ce que je prends le risque de m'approcher, de laisser les autres s'approcher de moi, et plutôt que de les écouter comme je sais plus ou moins bien faire et dire oui, tout ça? Ça m'est arrivé récemment, je me suis dit, mais il faudrait que je prie pour cette personne, et je ne l'ai pas fait. Est-ce que je prends le risque de répondre aux besoins qui m'entourent? Parce que des besoins, il y en a. Là, on voit un fils qui était mal en point, et il y a une délivrance qui s'opère. Ça peut être pour d'autres demandes. Est-ce que je prends des risques? Est-ce que je suis prêt à risquer ma foi pour voir Jésus agir aujourd'hui? Est-ce que je pense que Jésus, est-ce que je crois que Jésus agit encore aujourd'hui et peut agir dans la vie de mes proches? Je me suis dit certainement que si j'ai peur de l'échec, et ça rejoint un peu ce qu'Alain disait sur oser entreprendre, si j'ai peur d'échouer, si pour moi l'échec est une menace, je vais me contenter de vivre ma foi bien tranquillement. Je vais me contenter de venir peut-être le dimanche matin, et c'est très bien parce qu'il y a des bons messages. Pardon. Et puis c'est tout. Mais je ne vais pas prendre le risque de prier pour quelqu'un, de dire « Jésus, interviens », et de prier vraiment pour la personne, et de dire « mais je crois en toi, Jésus ». Et moi, j'ai besoin de retrouver, je vous le dis sincèrement, je vous le partage comme ça, j'ai besoin de retrouver ce sens de prise de risque, d'oser risquer ma foi, et d'oser être confronté à l'échec. Et ce n'est pas si facile. Est-ce que j'ose ce pari de la foi? C'est une question qui m'habite, et simplement, je la mets devant vous, quoi. Une autre chose qui m'a frappé, c'est que cette situation d'échec donne l'occasion aux disciples de vivre un moment intime avec leur Seigneur, avec leur Maître, avec Jésus. Dans le verset 28, nous avons lu ceci, je vous le redis, là je l'ai marqué. Quand Jésus entra dans la maison, ses disciples lui demandèrent en privé, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit ? Et l'évangile de Matthieu raconte aussi cette histoire un peu différemment. Il dit ceci, les disciples s'approchèrent de Jésus en privé et lui demandèrent « Mais pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit ?» Et Jésus va leur dire « C'est à cause de votre incrédulité, votre manque de foi. Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne « Transporte-toi d'ici à là, elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. » Et j'aime cette idée que les échecs permettent une rencontre en privé entre les disciples, entre nous et Jésus. Et j'aime cette phrase qui dit « Ils s'approchèrent de Jésus en privé. » Oh, il y a une fille qui pleure, sa maman. Mais ils font quoi ces enfants là en bas? Moi, je m'inquiéterais, les parents. Voilà une fille désemparée qui a besoin de ses parents. Et j'aimais bien cette idée, justement, que je reviens à ce message, j'aime bien cette idée de que les échecs permettent cette rencontre en privé avec Jésus. Et dans ce moment d'intimité, on voit que les disciples ont cette possibilité de poser cette question « pourquoi ?». Il y a plein de « pourquoi » qui nous habitent. « Pourquoi moi ? Pourquoi est-ce que ça arrive à lui ? Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ?» Et j'apprécie ce moment tout particulier entre les disciples et Jésus. Ils peuvent poser ces questions, poser leurs questions. Et ce n'est pas simplement un lieu pour poser les questions. Jésus va leur adresser une parole qui est forte, va parler dans leur situation. Et moi, dans mes situations d'échec, j'ai besoin d'entendre Jésus me parler. Et j'avais l'impression que ce matin, parmi nous, parce que je me mets avec, parfois on ne sait pas quoi faire de ces échecs, on ne sait pas quoi faire de ces non-réussites. Et j'aimerais vous dire que Jésus, lui, sait quoi en faire. Si moi je ne sais pas quoi faire de tout ça, Dieu, lui, sait quoi en faire et j'ai besoin de son intervention. Alors avant de conclure et puis de poursuivre, je vais appeler une chère psychologue. Donc ça va, il n'est pas marié, il est psychiatre, mais psychologue, donc tout va bien pour eux. Et puis donc c'est Sarah qui va nous donner aussi des petits trucs et astuces pour essayer d'être un peu plus pratique et concrète dans la vie de tous les jours. Mais je te le prête volontiers.
Ça va pas quand on a des cheveux. Voilà, bonjour. Alors, voilà, j'ai pris ce qu'il me faut. Alors, d'abord, j'aimerais préciser quelque chose. Je suis psychologue, mais ici, je suis Sarah. Et puis, je viens vous parler de quelques trucs et astuces face aux échecs. Mais je suis comme vous tous, voilà. Et puis, je suis juste quelqu'un qui a réussi et loupé des choses dans sa vie, puis qui va vivre encore longtemps, je pense. Et donc, je vais réussir et louper encore beaucoup de choses dans ma vie. Donc, je viens vous partager des choses. Ce n'est pas de la haute psychologie, c'est juste des choses que je sors de mon chapeau. Et puis, je me suis dit, peut-être ça pouvait être des bonnes pistes pour vous. Alors, voilà, j'ai pris une casserole, je vous explique. Enfin, la première petite astuce que je voulais vous laisser, c'est... Je ne sais pas vous, mais moi, quand je rate quelque chose, quand je loupe quelque chose, à l'intérieur de moi, mais ça bouillonne. Mais je suis fâchée. Je suis triste, je suis déçue, j'ai honte, ça m'énerve, j'ai perdu du temps pour rien. Il se passe une pétée de choses. Et je me suis dit, je pense que ces moments-là, je ressemble à une casserole sur laquelle, tout à coup, on a allumé le feu à fond et ça boue, et ça boue, et ça boue. Alors, dans ces moments, je me suis dit, mais j'ai deux options. Vous avez déjà vu une casserole quand ça boue, hein? Il se passe beaucoup de choses, hein? On est d'accord. Je me suis dit, dans ces moments-là, Sarah, t'as deux options. Une option, c'est de tenir, de dire, mais je me confie en Dieu, mais ça va aller, c'est Dieu qui gère, mais oui, je vais y arriver, comme ça. Et puis, continuer à vivre. Alors là, il y a deux risques. C'est d'être très épuisé, parce que tenir ma casserole, ça va me demander beaucoup d'énergie. Et il y a des grands risques d'explosion. Parce que s'il se repasse un échec, puis que le feu se rallume encore plus, ça risque vraiment de péter. Alors l'autre option, je me suis dit, c'est de prendre le risque, il faut reculer peut-être, c'est d'ouvrir la casserole. Ça déjà, ça se calme quand on ouvre la casserole. Mais qu'est-ce qui se passe? Le fait d'ouvrir la casserole, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait exprimer ce qui est dans moi. Si je suis en colère, je peux aller crier dans la forêt, je peux taper dans mon coussin, je peux écrire si je suis quelqu'un de plus calme comme ça, écrire dans mon carnet personnel tout ce qui m'énerve, tout ce qui m'énerve. Je peux appeler une copine, mon mari, mon pasteur pour dire « Ah, j'ai loupé ça, ça ne va pas du tout !» et en parler. Et une chose surtout aussi que je peux faire, c'est que je peux parler à Dieu de ce qu'il y a dans ma casserole. Et je peux dire, mais Seigneur, je suis fâchée, j'ai loupé, j'ai perdu mon temps, j'en ai marre. Donc voilà, l'astuce numéro une que je voulais vous laisser, c'est ouvrir sa casserole. Ou exprimer ses émotions, mais ouvrir sa casserole, je trouve que ça reste plus. Alors, la deuxième petite astuce, je vous explique. Il se peut que, par exemple, je suis en 9e année, et que, oh malheur, j'ai loupé mes examens, et je vais devoir, j'ai loupé. Donc je me dis, je suis un bon à rien, je suis nulle, ma vie est une catastrophe, je vais perdre une année, je vais devoir changer de copain, c'est vraiment la cata. Mince, je dois redoubler. Je suis vraiment, je ne sais pas à quoi je sers. Alors je peux continuer à vivre comme ça, ça va être un peu risqué, je risque de me ramasser pas mal de choses, ou je peux me dire, je peux faire comme ça. Attention, hein. Le geste, c'est pas comme ça. Puis faire genre, j'ai pas loupé ma 9e année. C'est pas vrai. C'est faire, ah, oui, j'ai loupé ma 9e année. C'est vrai. C'est difficile. Mais, tiens, là, je me suis trouvée nulle. Je me dis, mais vraiment, t'aurais pu faire mieux. On est d'accord. Mais, je fais du basket. Puis je m'en sors bien au basket. Puis j'ai vraiment du plaisir à faire du basket. Puis, samedi passé au match, j'ai reçu des compliments. Je suis peut-être pas nulle au basket, alors. Puis, ouais, j'ai toujours loupé ma 9e année. Je dis pas, je devrais la refaire. Mais, je fais les flambeaux et je vais passer CP. Oh, ça veut peut-être dire qu'il y a des gens qui me font confiance. Ça veut peut-être dire qu'il y a des gens qui voient quelque chose en moi, de plus que juste j'ai loupé ma 9e année. Et on peut continuer comme ça, à regarder ce qu'il y a autour. Et puis dire, ben ouais, t'as peut-être loupé quelque chose, ta 9e année, ton permis, d'autres choses. Il y a toute une liste de choses qu'on peut louper, mais il y a sûrement plein d'autres choses autour de toi. Donc de faire comme ça, ça remet juste à la bonne place ce qu'on loupe. Donc voilà. Donc ça va, vous suivez ? L'astuce numéro 1, c'est ouvrir la casserole. Le 2, c'est prendre un peu de distance, hein, remettre au milieu du reste. Et la 3e astuce que je voulais vous laisser, celle-là, elle n'est pas de moi, elle est d'un monsieur qui s'appelle Seligman, voilà, pour ceux qui connaissent. L'astuce, c'est à la fin de chaque journée, mais quelles que soient nos circonstances, même si c'est une période très difficile, où rien semble aller, même si vraiment, il y a des périodes où c'est comme ça, hein, où on se lève et on se dit « Oh, je dois encore vivre une journée pure et mince. » Même dans ces périodes-là, c'est à la fin de la journée s'arrêter et prendre le temps de penser, mais pas seulement, de penser et d'écrire 3 choses positives qui vous sont arrivées. Les choses positives, ce n'est pas avoir reçu une Porsche puis gagner 1000 balles au loto, parce que sinon, moi, je ne marquerai jamais rien sur mes petites feuilles. Hein. Enfin, je n'ai pas de Porsche, je ne gagne pas 1000 balles régulièrement, d'ailleurs, je ne joue pas. Mais bon, c'est une autre question. De s'arrêter puis prendre le temps de marquer 3 choses positives qui me sont arrivées dans la journée. Ça peut être un café avec quelqu'un que j'aime bien, quelqu'un qui m'a tenu le bus puis j'ai pu arriver à l'heure au travail, une pub qui m'a fait rire puis c'était super, quelqu'un qui m'a appelé, ça m'a fait du bien, une nouvelle paire de chaussures, je me suis achetée. N'importe, ça peut être plein de choses, plein de choses, plein de choses. Chacun a ses petits bonheurs, les choses positives qui lui arrivent dans la vie. Ben, de marquer ça sur une feuille, mais les écrire hein, vraiment, ça permet de voir, ben oui, il y a du positif, puis il y a des choses qui vont et qui se passent quand même bien, même dans les périodes difficiles. Alors voilà, est-ce qu'il faut que je récapitule mes 3 astuces ou vous avez suivi ? C'est bon ? Je reprends ma casserole. Hein. Je te laisse.
Comme ça, on se souvient bien des images. Merci Sarah, voilà, c'est un peu le fruit de nos tergiversations au Café Grancy, vous savez que c'est l'extension de mon bureau. C'est toujours un plaisir d'entendre Sarah. Merci pour ces pistes tout à fait pratiques. Avant de donner un mot de conclusion, j'aimerais juste... Alors je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne plus. Oh, ce n'est pas trop grave, tant pis. J'aimerais juste vous redire l'échec inévitable. Un échec m'engage à ne pas rester seul. L'échec m'oblige à faire appel à Jésus. Et c'est ce que j'aimerais... Ouais, mais c'est pas grave, il n'y a pas besoin, c'est pas important. Et c'est ce que j'aimerais qu'on puisse faire aujourd'hui, faire vraiment appel à Jésus dans des situations, soit les nôtres, soit d'autres. L'échec m'arrête. Et il me permet une rencontre... Voilà, c'est incroyable, j'ai même plus besoin d'appuyer dessus, ils font ça à ma place. L'échec m'arrête et il me permet une rencontre en privé, un temps de cœur à cœur, un temps intime avec Jésus. L'échec, c'est aussi l'occasion de poser mes questions. C'est une opportunité pour recevoir une parole forte de Jésus, d'être, la possibilité d'être confronté aussi, d'être défié, d'être encouragé et d'être fortifié. Et j'aimerais dire une chose, c'est que la valeur, ma valeur, ne dépend ni de mes réussites, ni d'abord de mes échecs, mais de la certitude que je suis un fils aimé de Dieu et créé à son image. Et pour moi, c'est quelque chose de fondamental, et j'aimerais terminer là-dessus. C'est que si ma valeur, mon identité, dépend d'abord de la réussite de ce que j'accomplis dans ma vie, je suis d'accord que ça y participe, ça c'est certain. Mais si ça dépend d'abord de ça, je vais vivre sous une pression qui est énorme. Je vais peut-être pas toujours oser prendre des risques ou risquer ma foi de peur d'échouer. Et quand j'échouerai, ça va être très difficile de se relever et je ne vais pas pouvoir tirer profit de mes erreurs. Et dans une société qui nous pousse à la réussite, qui valorise uniquement la réussite, ça paraît évident, mais aussi la Suisse qui est assez perfectionniste, ce n'est pas si simple d'oser entreprendre et d'oser risquer sa foi et d'entreprendre. Et j'aimerais redire ce matin à moi-même et à vous, et on l'a chanté, que ma valeur dépend d'abord du fait que je suis fils ou fille de Dieu bien-aimé. Et j'aimerais que ça puisse être tellement ancré que ça puisse nous aider à nous libérer, à entreprendre et à oser la foi. J'aimerais simplement peut-être vous laisser un petit temps pour laisser un peu descendre toutes ces paroles. C'est vrai que ça a été un petit peu dans des sens différents, il y a eu pas mal d'interventions. Peut-être que vous avez besoin de déposer une situation, soit passée, vous sentez qu'il y a un échec, vous l'avez encore ici dans le cœur ou même carrément ici, de déposer ça à Jésus. Dire « Jésus, je dépose ça. Je ne sais pas tout à fait quoi faire encore de cet échec-là, mais toi, tu sais. Et je ne veux pas me laisser handicaper ou enfermé par cet échec passé. Je veux être libre d'être ton enfant aujourd'hui et demain. » Ça, c'est une possibilité. Vous avez peut-être la possibilité aussi de déposer devant Dieu une situation d'échec présente où vous sentez en incapacité ou impuissance face à une demande ou à votre rôle ou votre responsabilité. Ça peut être aussi l'école, ça peut être relationnel, de faire appel à Jésus et peut-être se dire « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu as à dire dans cette situation-là » Parce que peut-être qu'il a quelque chose à vous dire. Donc voilà, simplement passer comme ça un petit moment en silence, chacun pour soi, devant Dieu, quoi, et tous ensemble aussi, dans la prière. Seigneur, je te remercie parce qu'on peut ouvrir notre casserole et puis on peut oser regarder ce qu'il y a dedans et t'apporter tout ça. Si parfois on ne sait pas tout à fait quoi faire et comment s'y prendre avec le contenu, il y a toujours la FNAC et les livres et il y a aussi toi, Seigneur, qui sait quoi faire et qui peut nous guider. Tu es un Jésus sauveur et nous voulons t'accueillir comme sauveur, Seigneur de nos vies, dans nos situations de tous les jours. Seigneur, je te prie de nous aider à entreprendre et à oser risquer notre foi. Seigneur, je te remercie parce que tu viens nous rappeler qu'on a de la valeur à tes yeux, qu'on est tes enfants, qu'on a été créé à ton image et que c'est ça qui fonde d'abord notre vie. Je te prie de faire descendre cette foi au fond de nos cœurs, que ce ne soit pas juste quelque chose qu'on a dans la tête, mais qu'on l'ait vraiment au fond, dans nos émotions, dans nos tripes. Seigneur, je te prie pour que ça soit quelque chose d'ancré, Jésus. Merci parce que nos vies ne sont pas des échecs, mais elles sont entre tes mains. Et c'est tellement beau de savoir que tu es là. Seigneur, je te prie de déposer des paroles de bénédiction, des paroles d'encouragement, des paroles qui fortifient la vie de chacun ici dans ces défis. Merci parce que tu viens à notre secours. Tu es là pour nous secourir et nous relever. Et merci pour ce texte qui nous encourage, Jésus. Veuille vraiment bénir chacun ici. Et aussi les enfants qui sont en bas, toute la pression scolaire et de l'école, ça peut être assez grand, Seigneur. Et on te demande de bénir vraiment chaque enfant, chaque jeune dans ces défis quotidiens aussi, et en particulier. Amen.
Eh bien, voilà. Voilà. C'est au nom du groupe Mission que je vous donne quelques nouvelles d'Aline Rolando. Je lui ai fait une visite hier après-midi par Skype, c'était sympa. Et j'ai voulu transmettre quelque chose par écrit et j'ai eu un échec, vous voyez, ça n'a pas joué. Alors, il faut vous contenter de quelques paroles. Alors, pour Aline, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, qui c'est qui connaît Aline Rolando? Il y a quand même une quinzaine de personnes. Mais elle est de notre église, elle s'était faite baptiser au mois de juillet, si vous vous souvenez. Elle est partie avec MEDER pour une année de service au Congo. Et elle est dans le nord-est du Congo, à Dungu, qui est assez proche de la frontière soudanaise, et un lieu assez isolé. Et puis, le climat est rude. Alors, elle demande qu'on prie pour elle, parce que tous ces derniers temps, il fait 40 degrés. Et travailler avec 40 degrés, ce n'est pas évident. Elle est fatiguée. D'autant plus qu'elle ressent la lourdeur du travail. Dès le mois de mars, il y a 4 nouveaux projets qui démarrent. Un projet de santé, un projet alimentaire, un projet d'eau et d'hygiène et assainissement. Enfin, j'ai quelques renseignements ici. Et j'aurai une dizaine de feuilles à distribuer pour ceux qui aimeraient prier. Tous ces nouveaux projets, ça veut dire aussi nouveaux préparatifs, organisation. Ils ont dû construire à la hâte 3 petits bâtiments pour des bureaux pour les nouveaux responsables de ces projets. Et puis, nouveaux projets, arrivée de nouvelles personnes. Donc, il y a aussi la préparation à se répartir mieux les tâches. Et puis, elle demande aussi qu'on prie pour une bonne entente dans l'équipe. Cette équipe est formée maintenant simplement d'Aline et d'une malgache. Et maintenant, il va arriver une Française et une Néerlandaise. Donc, elle demande qu'on puisse prier pour cette entente entre elles. Prier aussi pour l'équipe des travailleurs locaux qui prennent de gros risques, qui sont souvent en voyage, de longues distances en moto. Il y a eu parfois des accidents. Et puis, séparés de leur famille, on peut penser aux travailleurs locaux. Une autre information, qu'elle se prépare à la journée mondiale, on n'en parle pas beaucoup dans nos églises évangéliques, mais à la journée mondiale de prière des femmes. C'est un événement marquant, et c'est un jour férié en Afrique, en tout cas au Congo. Et puis, MEDER participe à cette célébration. Hier matin, elle est allée au marché pour acheter des tissus avec sa collègue afin de faire coudre des pagnes pour les 13 femmes de leur programme qui seront là parce qu'ils font un défilé, puis un moment de prière, et ils assistent à tout cela. Puis, en dernier lieu, prier pour le Congo. Vraiment, il y a un grand besoin de prier pour les autorités. Ça ne va pas très, très bien. Et en ce moment, par exemple, du côté de Bounia, il y a une révolte des soldats parce qu'ils ne sont pas payés ou très rarement payés. Et ce n'est pas facile tout cela pour eux. Donc, il y a de l'insatisfaction, un ras-le-bol. Donc, prions pour les autorités pour qu'ils prennent mieux leurs responsabilités et n'oublient pas les régions éloignées, là, dans cet est du Congo. Alors, voilà, on pourra prier pour Aline. Et puis, elle vous salue avec affection. Elle est venue à Noël pour quelques temps, mais c'était court. Elle est repartie du froid et à 40 degrés, vous imaginez. Donc, vous pourrez me demander, pour ceux qui connaissent Aline et qui aimeraient prier pour elle, j'ai une dizaine de feuillets ici pour la prière. Merci.
Est-ce que tu veux rester avec moi pour prier pour Aline tout de suite?
Eh bien, Seigneur, nous voulons te remettre Aline. Merci parce que nous savons que là aussi, elle peut vivre des grands encouragements, mais aussi des échecs. Et nous voulons te demander que tu sois présent dans toutes ces journées et que tu la relèves de cette fatigue. Tu vois que ce n'est pas facile de travailler avec une chaleur si élevée. Et nous te demandons vraiment qu'elle puisse être bien entourée et puis qu'elle puisse bien se préparer pour cette nouvelle équipe qui arrive et qu'il y ait une bonne entente aussi entre eux. Merci Seigneur de lui faire du bien aujourd'hui. Nous te le demandons par ta grâce. Amen.
Amen. Merci Yvonne. Alors, est-ce que Jocelyne Steiner, tu peux venir me rejoindre pour prier pour l'offrande ?